Campagne, bonjour. Nous nous installons cette semaine dans les Bouches-du-Rhône, dans le 13. On dit comme ça au département quand on souhaite communiquer le 13. Dommage que le site d'ailleurs du conseil départemental soit aussi peu original, mais il y a peut-être du bon dans ce constat. Mieux vaut travailler le contenu plutôt que la façade d'un site. Le contenu à Marseille, et surtout celui qui concerne l'habitat après la tragédie de la rue d'Aubagne, contenu et façade comprises, car dans ce quartier de Noailles, traditionnellement populaire, les immeubles sont singulièrement vétustes et dans un état pitoyable. Au lendemain du drame, nos confrères de France 3 Provence consacraient un reportage à ce quartier et découvraient des annonces de rénovation d'immeubles affichées prévues en 2012 sans qu'un seul coup de truelle ne soit donné depuis cette date. Déjà en 2000, un groupe d'habitants de Marseille fondait l'association Un Centre-Ville pour tous, de façon à surveiller l'accès au logement pour tous sans exclure les populations les plus fragiles et de surveiller aussi les réhabilitations de quartiers comme ce fut le cas au Panier, réhabilitation qui révélèrent d'ailleurs des dysfonctionnements financiers. Si vous voulez rejoindre le collectif, c'est uncentrevillepourtous.asso.fr. Derrière cette actualité, tous les commentaires qui peuvent en jaillir, il y a aussi un département inventif, solidaire et responsable. Le réseau Hospitalité en est la parfaite illustration de cette solidarité à laquelle peuvent contribuer les Marseillais, les Provençaux. Ce réseau fondé par notre premier invité, Jean-Pierre Cavaillé, est actif partout en France. Le 13 aussi est la pollution de la mer. Sujet rarement évoqué, les filets de pêche fantômes qui se comptent en milliers de tonnes. L'association Palana Environnement se destine à les récupérer et les recycler. Sabine Meneux, cofondatrice de Palana, sera notre seconde invitée.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jean-Pierre Cavaillé, bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre, grâce à Michel qui nous a mis sur la voie du réseau dont vous êtes membre fondateur, oui. Réseau Hospitalité, issu du réseau Sanctuaire, créé en 2006 à Marseille, on va pouvoir évoquer travail phénoménal que vous réalisez en Provence. Oui. D'abord, rappelez que la Provence est une terre d'hospitalité.
Oui, c'est vrai, c'est un, elle est une frontière à la fois de la France, mais aussi de l'Europe. Elle est à un bout de la Méditerranée qui est... une terre commune, une terre de liens.
Vous êtes issu d'un le réseau Sanctuaire, d'un mouvement né aux États-Unis dans les années 80, propagé en Angleterre, qui s'appelait Sanctuary. C'est la ville sanctuaire. Alors évidemment, chez nous, vous avez décidé de parler plutôt d'hospitalité pour éviter une connotation religieuse en sanctuaire.
Oui, bon, même si on oublie que dans l'Antiquité, il y avait des temples sanctuaires, il y avait aussi des villes sanctuaires, et c'est parce qu'il y avait des divinités, notamment Zeus, dont l'une des fonctions était de favoriser l'accueil. Et donc, quand on parle maintenant en français de sanctuariser une zone, on pense pas à un truc religieux, c'est simplement une zone de protection absolue. C'est l'idée de base qui est repris en anglais. Hein.
Et la finalité du réseau Hospitalité, c'est d'accueillir, d'aider, d'accompagner des demandeurs d'asile et des réfugiés principalement.
Oui, maintenant, c'est vrai qu'on a un principe de non-discrimination, c'est-à-dire que on rassemble le maximum possible d'organisations et de personnes qui sont favorables à l'accueil, à l'hospitalité. Mais on sait aussi qu'il y a des gens bien de chez nous qui sont aussi pas accueillis parce qu'ils sont à la rue, etc. Donc on met pas de discrimination. Tout le monde ne s'occupe pas de tout. Médecins du Monde, c'est pour la santé. La Fondation des Pierre Emmaüs, c'est justement pour des gens qui sont de toutes origines. Mais on se spécialise, ou enfin, on se focalise un peu plus particulièrement, effectivement, sur les exilés, quel que soit leur statut. Certains sont demandeurs d'asile, donc ont déjà le statut, on les appelle des réfugiés. D'autres ont été déboutés, ils vont devenir en situation irrégulière. Nous, on met pas de frontières, pas de limites, c'est tout le monde.
Ouais.
C'est un principe d'humanité, d'abord. Ouais.
Mais comment on approche une personne qui est en situation irrégulière, Jean-Pierre, en sachant qu'elle a de fortes chances d'être renvoyée au-delà de nos frontières?
Ils sont pas tous renvoyés, loin de là. Certains vont l'être, ça veut dire qu'on a des démarches, un accompagnement juridique. Mais même la loi prévoit que toute personne ne devrait pas être dans la rue. On adopte le principe de désobéissance civile dans le sens où s'il y a une loi qui contrevient aux droits fondamentaux, on désobéira à cette loi pour appliquer les droits fondamentaux. Mais dans l'état actuel des choses, on constate surtout que l'État n'applique même pas la loi.
Je vois tout ce que vous réalisez, inter du réseau Hospitalité, grâce aux organismes, aux représentants d'organismes, de la CIMAD, vous en avez été, du réseau Éducation sans frontières, du CCF, des Pastoral des Migrants, du Secours catholique, de Médecins du Monde, je vais en oublier, réseau Welcome Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre. Vous avez un réseau langue, un réseau hébergement solidaire, une plateforme juridique, un réseau sensibilisation, un réseau communication culture, un réseau santé. C'est-à-dire qu'en fait, vous assurez tous les compartiments nécessaires à l'hospitalité, à la vie, accès aux soins, apprentissage du français, scolarité des mineurs.
Ouais. Il y a une partie économique qui devrait émerger, parce qu'il peut pas y avoir d'intégration s'il n'y a pas aussi le volet économique.
Ben oui.
Mais on est un peu des touche-à-tout par nécessité, c'est-à-dire que on accompagne et on héberge des personnes, et c'est un peu toutes les dimensions. Alors, le réseau, c'est un rassemblement. C'est-à-dire que donc, on fait ce que font les organismes spécialisés, mais en même temps, quand il y a des vides, dans ces cas-là, on essaye ensemble de les combler. Et on est fort parce qu'on est ensemble.
Mmh, évidemment. Et le réseau est surtout actif en Provence, mais il est aussi attaché à toutes les régions. Et depuis 2015, vous avez été en contact avec près de 70 communes. C'est-à-dire que vous avez aussi, indépendamment des particuliers, des citoyens qui interviennent, vous avez des communes qui se portent garantes d'un hébergement et d'un accompagnement de ces réfugiés migrants ou gens de la rue.
Alors, il y a un début, parce qu'il y a, nous, c'est un réseau associatif. Mmh. On a rencontré pas mal de communes. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas un pays qui est gagné par les idées de xénophobie. Ceux qui sont pour l'accueil sont très nombreux, je pense même la majorité. Et même au Luc du Var, qui est une ville qui est tenue, animée par le Front National, ils ont changé d'avis. Même le maire, quand ils ont été amenés à accueillir un CAO, donc avec des gens exilés. Donc tout le monde peut aussi évoluer vers cette idée qui est une idée d'avenir, que le monde il va vers beaucoup de mouvances, de mouvements, et que c'est l'hospitalité, c'est l'accueil qui est notre avenir.
Ouais. Et merci pour le message d'espoir par la même occasion. Réseau hospitalité.org, la page Facebook, JPC solidaire, JPC comme Jean-Pierre Cavalier, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Merci beaucoup Jean-Pierre.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Tout est parti du Pays d'Aix en 1972 avant de devenir un réseau national. Il s'agit des bibliothèques sonores. Elles sont 114 en France. Il s'agit tout simplement de réunir des bénévoles, donneurs ou donneuses de voix qui enregistrent des livres destinés à des personnes empêchées de lire par déficience visuelle, handicap moteur ou dyslexie. La bibliothèque d'Aix fut donc la première en France. 32 donneurs de voix donnent de leur temps pour enregistrer des livres qui s'ajoutent au fond de 2000 titres déjà référencés. Le réseau national à plus de 10 000 références, et ce service est gratuit, sans abonnement ou cotisation. Il vous suffit de vous inscrire avant de passer commande et vous recevez les audiolivres par la poste en franchise postale, autrement dit le retour à la bibliothèque, et donc sans frais. advbs.fr pour l'adresse du réseau. Sabine Meneux, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sabine, vous avez fondé en juin 2016 avec Pablo Ligère l'association Palana Environnement. Grâce à vous, je sais que Palana en langue Kalina, qui est une langue amérindienne de Guyane française, ça signifie océan.
Tout à fait.
Sabine, dans une émission précédente, on avait évoqué largement la dérive du 7e continent de plastique. Mais quand on dit plastique, on pense à des déchets, bouteilles plastiques et autres. Et on oublie les filets de pêche. 640 000 tonnes de filets de pêche fantômes sont perdus chaque année en mer.
Tout à fait. Alors en plus, la particularité du 7e continent de plastique, c'est qu'on ne voit plus le plastique. C'est des micro-particules, donc c'est encore pire que ce qu'on peut penser. Mais effectivement, les filets de pêche, il y a 2 ans, quand on s'est lancé, c'était tabou. On n'en parlait pas du tout en France, on ne s'y intéressait pas, on ne savait pas combien de tonnes avait un pêcheur par an, et du coup, combien il pouvait en jeter et combien il pouvait en perdre. Donc c'était une grosse problématique, et ce qu'on appelle un déchet diffus, c'est qu'on ne s'y intéresse pas. Et derrière, du coup, il n'existe aucune solution aujourd'hui de recyclage en France. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé.
Mmh. Il y a des menaces, évidemment, sur l'équilibre environnemental. Il y a des menaces aussi sur les poissons, puisqu'un filet fantôme continue, vous dites, à pêcher au moins 6 mois après son abandon.
Tout à fait. Et là, encore pire, les dernières informations qu'on a avec nos partenaires scientifiques, ça peut pêcher encore pendant entre 2 ans et 3 ans. C'est pour ça qu'il faut intervenir le plus rapidement possible, et que l'association Palana, du coup, est de promouvoir la pêche durable et de collaborer avec les pêcheurs pour leur proposer une solution de collecte des filets en mer. mais également des vieux filets sur les ports de pêche.
Et il y a une menace pour les plongeurs aussi.
Tout à fait, oui. Nous-mêmes, quand on, en tant que plongeurs, on doit faire très très attention, parce qu'un filet, c'est minimum 200 mètres de long, et ça peut atteindre 1 km 400 pour certains types de pêche. Et là, on parle que de la pêche petit métier, on n'est pas sur les filets de chalut, où là, on parle sur du 7 à 8 km de long. Et sur les plongeurs, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver emmêlé dedans. Donc, il peut y avoir des accidents.
Alors justement, avec les pêcheurs et les plongeurs scaphandriers, vous avez mis au point un projet, NetSea, pour repêcher ces filets fantômes que vous allez recycler, utiliser à d'autres fins.
Tout à fait. En fait, les filets de pêche, c'est du polyamide, c'est du plastique. Donc, les filets fantômes, donc, on les envoie à un partenaire labo qui travaille sur un process de biotechnologie. Et pour les filets hors d'usage qu'on récupère directement sur les ports de pêche, on a lancé une marque depuis le 1er décembre 2018 qui s'appelle Sauvage, où on crée des produits éco-conçus, donc sans utiliser d'énergie. Et derrière, avec l'objectif de faire de l'emploi, de l'économie locale, sociale et solidaire. Et donc, on peut retrouver les premiers produits sur notre site internet sauvage-med.fr. Et ça, ce projet, il est né d'une collaboration avec Emmanuel Laurin, l'initiative du Grand Saphir, qui a fait Marseille-Toulon à la nage il y a 2 ans.
Vous intervenez, Sabine, avec Palana Environnement, sur quel espace du littoral?
Alors aujourd'hui, on travaille avec les pêcheurs de Marseille, de l'étang de Berre, de la Côte Bleue, mais également ceux qui sont sur Agde, donc sur la région Occitanie. Et on a fait de l'accompagnement de projets en Mauritanie. Donc l'objectif, c'est de pouvoir dupliquer notre savoir et notre projet sur l'ensemble du territoire français, mais aussi sur l'ensemble du pourtour méditerranéen, parce que pour nous, la pollution n'a pas de frontières et que les filets de pêche peuvent être une ressource.
Quel type de produit propose Sauvage à travers le recyclage des filets de pêche?
Alors aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle le réemploi, le upcycling. On fait des bracelets à partir de filets de pêche, on fait des sacs à provisions, on travaille sur des cordes et on est entouré de designers, que ce soit de l'école de Beaux-Arts des Designs ou avec un jeune designer qui est sur Paris et qui nous aide pour intégrer le filet de pêche dans son paysage urbain ou plutôt mobilier d'intérieur.
Il faut vraiment que cette démarche puisse être étendue parce que là, il y a vraiment urgence, il y a tellement d'urgence. Mais là, sur ces dérives de filets et de ce septième continent plastique, il y a vraiment une menace pour l'ensemble de la faune et de l'équilibre de la biodiversité. Palana, tradeunionenvironnement.org. Et puis pour la production, donc vous l'aviez dit, c'est sauvage, tradeunion, med, comme Méditerranée, med.fr. Merci Sabine.
Merci beaucoup Philippe.
Toute la semaine consacrée au Bouches-du-Rhône. Ensuite, nous serons un petit rappel rapide dans le Vaucluse, la Charente-Maritime, la Gironde et début avril dans le Lot-et-Garonne avant d'aller du côté de l'Auvergne dans le Puy-de-Dôme.